Donc, il est venu nous voir, je pense, à chaque album, ou presque. Jason Bajada, salut.
Salut.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Ça va très, très bien. Je me trompe pas, je pense que c'est presque à chaque album depuis le début.
Il me semble.
Love Shit 2.
Ouais.
On t'avait reçu pour Love Shit 1.
Ça fait longtemps.
Oui, un petit bout déjà. Évidemment, tout ça est inspiré d'une pensée qui va pas bien dans ta vie, mais il y a album double. Donc, deux fois plus de chansons deux qu'à fois. L'habitude. Comment c'est arrivé, ça?
Deux fois plus de mélancolie. Comment c'est arrivé? Je sais pas vraiment. En fait, quand Volcano est sorti début 2016, j'avais déjà la moitié d'écrit. J'étais dans une passe très rough, en fait, à la sortie de ce disque-là. Et puis, j'écrivais quand je pouvais, à tous les moments, les occasions qui se présentaient. Puis aussi, en fait, c'est un album double, il faut dire, le premier disque est plus lumineux, il est plus happy. Je vivais un truc qui était très inspirant, j'étais en mode séducteur un peu. C'était une relation, en fait, avec quelqu'un qui m'aidait un peu de me sortir de la torpeur du deuxième disque, qui est les Backstabbers, où j'ai vécu beaucoup de trahisons amicales, des trucs un peu complexes au niveau de mon travail. J'étais amoureux de ma gérante, il y a eu une grosse rupture qui en est suivie, il y a eu beaucoup de couteaux dans le dos, mettons. Puis par la suite, je me suis comme accroché un peu à une bouée de sauvetage. J'étais un peu comme le titre le dit, painkiller de quelqu'un alors qu'elle était pour moi. Alors j'avais comme deux disques en tête. J'avais l'album Blondie qui était plus lumineux justement, que j'avais envie de faire un EP. Finalement, cette relation-là s'est gâtée aussi, puis ça s'est transformé en album. Alors j'aurais pu sortir un album là, puis un album dans un an. Mais je trouve que j'en sors déjà pas mal. Et puis, j'ai l'impression que les gens ont comme un... Puis moi y compris, un genre de déficit d'attention avec tout ce qui sort. J'aimais mieux faire un package d'un disque. Et puis finalement, avec tout le numérique, maintenant Spotify, Apple Music, on appuie sur Play, puis la collection de chansons part. Ça décolle, puis il n'y a pas... Moi, c'est pas... après ça, dans 8 mois, faire une autre stratégie, une autre campagne de « bon, ok, tu sors quelque chose d'autre encore, c'est lequel que j'achète, c'est quel que c'est...
»
Je voulais comme... Là, je suis bon là, pour 2 ans, puis...
Mais en même temps, c'est un cadeau que la maison de disques suive.
Parce qu'on
est dans une ère de EP, de
le
moins de chansons possible.
Ouais.
Dans ton cas, c'est le contraire.
C'est complètement le contraire. Puis au départ, j'imagine que ça a peut-être fait peur à certaines personnes. Il y a peut-être eu des gens qui ont pensé de me convaincre du contraire, mais lorsqu'ils ont entendu les maquettes, qui étaient quand même assez enveloppées, puis mes maquettes sont très complètes, en fait, il y a tous les arrangements, le directeur artistique chez Audiogramme à l'époque, parce que là, il n'est plus là, mais Yann m'avait dit, je ne saurais même pas où couper, il y avait 35 tunes, puis il dit, je trouve déjà que c'est difficile pour moi de dire d'en enlever... 10, mais j'imagine pas d'en enlever 25. Puis j'avais déjà dans ma tête, le concept était là, sous la bannière Love Shit 2, un This Blondie, un This Backstabbers, les deux chapitres complètement séparés, mais qui se regroupent sous cette étiquette-là. Ça faisait du sens, j'étais arrivé très préparé chez Audiogramme avec mon PDF, puis tous mes titres, puis je fais comme, this is the album, this is the way it's gotta be.
Et d'ailleurs, il y a 30% de ce que t'as fait de ton bord tout seul qui est là.
Non, absolument, oui, puis sinon plus, en fait, comme
c'est
un...
Qui est rare, quand même,
pour moi, parce que je suis pas réalisateur, mais avec les années, on dirait que je faisais des maquettes, on les écoutait, puis on recommençait à zéro, alors que là, ça allait de soi parce que on avait genre le même budget pour un album double qu'un album simple. Alors, Philippe Brault qui a réalisé le disque, il écoutait mes maquettes, puis il dit « Bon, on va garder plein de stock là-dedans, ça se fait, il faut juste réamplifier des basses, puis des techniques pour de studio que moi, je suis pas, je suis pas très à l'aise, mais la prise de son était quand même bonne, puis je suis excessivement fier parce que tu vois une toune comme le single en ce moment, c'est « Painkiller », puis tout a été fait quasiment dans ma carte de son, chez nous, en pitch, avec ma quartet, puis... Alors, la basse, les guitares, les claviers, on a tout gardé ça, en fait, puis ça a été remixé, puis on a rajouté après ça, on a fait les vocales, guitare acoustique en studio, puis mon bon ami Sam Joly, qui est venu jouer on a remplacé les faux drums par des vrais drums, puis ce qu'on entend, en fait, c'est vois un résultat à peu près, il y a 50-60% en fait du single qui a été fait chez nous. Fait que ça m'a un peu aussi donné confiance pour la suite de faire, tu sais, avec les, de moins en moins de ventes de disques et tout le kit, au moins il y a des possibilités pour le futur que je peux juste comme peaufiner un peu mon expertise de studio maison, puis ça va toujours être possible de faire de la musique, ouais.
Est-ce que c'était clair que ça allait s'appeler Love Shit 2?
Ouais, ben ça fait longtemps que je veux faire ça. En fait, même avant que je fasse la parenthèse francophone que j'appelle les deux disques en français, que c'était un peu inattendu. J'aimais l'idée d'avoir comme un deuxième volume éventuel, un document.
Mais pour ça, il fallait qu'il y ait un Love Shit.
Ouais, il a fallu qu'il y ait... En fait, c'est ça qui est un peu la blague, c'est qu'il y a eu deux Love Shit, puis il y a eu même quatre Love Shit, si je comprends toutes les ruptures amicales, puis... il y a eu un peu la pré... Il y a eu comme un peu un clin d'œil ou une prédiction de la suite des choses qui est un peu étrange, mais avec une chanson comme Pékin, les amitiés, qui était la seule chanson sur Volcano qui parlait pas d'anxiété ou de rupture ou de tomber en amour ou des trucs comme ça. C'était vraiment une chanson à propos des amitiés qui finalement meurent, puis finalement ça déchire plus que des fois que même... une rupture amoureuse. Ouais.
Et c'est un sujet qu'on aborde rarement.
Il y a eu une chanson en hommage aux amitiés que j'avais ce résultat de mes bêtises, qui s'appelait William avec toi, qui parlait d'un chum de longue date. Et puis, 95% de mon matériel, oui, est orienté vers la mélancolie, les histoires amoureuses et tout ça. Pékin, c'était comme un précurseur, c'est un avant-goût, un indice. Puis après ça, j'ai comme vécu des trucs l'année passée où je me suis séparé, j'ai fait le choix de couper dans les amitiés de 20 ans, des gens avec qui je travaillais dans mon band, des gens qui étaient comme un peu les piliers dans ma vie, mais qui étaient devenus super toxiques. Il a fallu que je passe la dernière année à me refaire finalement. Aujourd'hui, si tu m'avais dit il y a 2 ans, ça va être ça ta vie, ça va être ça tes nouveaux piliers, les personnes qui t'entourent, les personnes avec qui tu vas travailler, que tu allais changer de musicien dans ton band, puis de réalisateur, puis tout ça, je ne t'aurais jamais cru. Là, c'est complètement renversé à l'envers. Et puis, mais en même temps, ceci étant dit, c'est le cliché des grandes épreuves qui t'amènent ailleurs, mais si je n'échangerais pas ma vie actuelle avec celle du passé, je suis très fier de m'être sorti de ce gouffre-là, de ce trou-là, puis d'avoir comme trouvé des nouvelles personnes.
Et c'est comme ça que ça sent, toi, c'est en chanson? Quand ça va pas, c'est ça ton exutoire?
Ouais, comme là, ça va bien, mais j'écris plus. Là. mais c'est
pas sûr que c'est une bonne nouvelle, qu'il faut absolument que ça aille mal tout le temps.
Non, mais en fait, Blondie, c'est un exemple de l'album, le premier disque de l'album. Ouais, c'est moi qui est complètement séduit, inspiré, qui est prêt à faire des culbutes puis traverser la ville à 4h du matin pour déposer une fleur dans une boîte aux lettres. Là, c'est moi à mon meilleur, puis à mon mode le plus confiant. Et les tunes sont upbeat, les tunes sont... En fait, c'est quelqu'un qui vit quoi de rough. Moi, je sors d'un truc rough, puis...
Ensemble, vous vous consolez.
Comme, OK, ben on est chacun notre médecine, puis on... let's go to the airport, puis on décolle, puis on s'en va en Islande, puis tout est possible. Puis c'est super adolescent, tombe en amour, tout est possible. Pour à peu près la moitié, sinon plus, des chansons.
Quand tu as commencé les entrevues, tu as dit au devoir, entre autres, bon, maintenant, il faut que j'en parle de ce disque-là. Est-ce que c'était une épreuve pour toi de dire, je vais aller compter ça?
Ben, au départ, oui. Je suis comme...
descendu très profond, là, avant
ouais, ouais, très, très, très. Il y a un an et demi, j'étais à l'hôpital, j'étais suicidaire. J'ai vraiment, comme, je n'avais plus regarder, vraiment, tous mes exutoires étaient contaminés, toutes mes... partout où je regardais, en fait, il y avait plus rien qui me donnait envie de continuer. Finalement, je vais en finir. Puis j'ai été super chanceux de m'en sauver, de m'en sortir avec thérapies différentes, puis des trucs. Mais j'avais pas, mais en fait, j'ai été super chanceux parce que j'ai Éditorial Avenue, la boîte d'audiogramme des éditions, m'a envoyé à Los Angeles juste avant que l'album sorte, pour faire de l'écriture, en fait, avec Matt Olibovski puis Alyosha. Ouais, on est allé faire un camp d'écriture à LA dans une super belle maison. Puis j'ai accepté de le faire, même si c'était 1 ou 2 semaines avant le lancement. Puis ça donnait que toutes les entrevues, je les ai faites au téléphone, au moins pas en personne, avec je me levais plus tôt justement, je me faisais un petit café, puis je commençais les entrevues de Los Angeles dans cette maison-là. Puis je pense que les entrevues ont mieux passé à cause que j'étais pas dans un café, tu sais, face à face. Puis j'ai eu le temps un peu de... J'avais cette distance-là, ce détachement-là, puis... Je me suis dit, ouais, la première phrase que j'allais dire, je savais pas c'était qui la première personne avec qui j'allais faire l'entrevue, mais comme quoi que j'étais terrifié un peu pour peut-être, je sais pas, avoir un peu une autodérision, un peu d'humour avec tout ça, puis que l'autre personne se sente, parce que c'est quand même un sujet qui est lourd, c'est quand même un sujet que, tu sais, je me suis ouvert complètement les veines à la table, puis c'est comme, bon allons-y, tu sais, je cache rien, il n'y a rien de subtil. En fait, les textes sont peut-être un peu plus... Certains textes sont subtils, mais certains ne le sont pas. Puis, Philippe m'a beaucoup rassuré, fait que ben, moi aussi, j'étais un peu nerveux, puis, ben, commençons, tu sais, discutons, puis... Je suis très livre ouvert, alors j'ai pas peur de parler de rien. Les plaies étaient encore là, malgré qu'ils ont guéri, les cicatrices. Fait que j'ai jamais été capable d'y aller à moitié, en fait. Je parle tout le temps ouvertement de ce qui se produit.
Pourquoi Philippe Brault?
Ben, ça fait longtemps que je travaille avec. Puis l'année dernière, quand j'ai fait des coupures dans avec les gens avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé... pour des raisons personnelles et professionnelles, je faisais un show avec Salomé Leclerc à Trois-Rivières, je pense, avec la tournée Oshiaga en région. Okay. Et puis Phil jouait avec Salomé, il réalisait ses disques aussi, entre autres. Et puis je suis revenu ce soir-là avec Salomé et son band. Puis j'ai une longue discussion avec Philippe. Je sais pas, on s'entendait super bien, on parlait le même langage. C'est quelqu'un qui est très versatile, très caméléon avec les projets avec lesquels il travaille. Trip sur les pop, les gros beats, c'est sa passion, en fait, l'électro, tout ça. Mais il réalise des disques de Pierre Lapointe. Fait que c'est quelqu'un qui va à Cuba faire des disques avec Philémon, puis il travaille avec Laurence Terrebonne. Puis bon, il a tellement fait des projets
différents.
Puis la musique de théâtre et ainsi de suite. Fait que non, puis il y a une douceur, il y a un côté paternel aussi très rassurant que moi j'avais besoin. Je peux pas travailler avec quelqu'un en studio qui est trop trop tête forte, puis qui écoute pas, puis qui fait à sa tête, puis qui montre comment ça va se passer. C'est vraiment Phil, c'est quelqu'un qui est très 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 confiant, très talentueux. Il sait où il s'en va, mais tout le temps avec le « Hey, on va-tu souper après? » Puis on jase, puis on était à l'écoute, puis doux, puis en tout cas, c'est un humain extraordinaire. C'était mon premier choix. Je voulais travailler avec lui. Je pensais qu'il allait dire non. Il venait juste de gagner en plus à la disque avec Corias, puis Laurence. Et finalement, il a dit oui. Il a dit on va trouver une façon de le faire. Puis la première rencontre, je lui ai annoncé que ça allait être un double. Je pensais qu'elle allait encore dire non. Puis qu'elle a dit bon, là, tu vas choisir 10 tunes dans tes 35. Ouais, mais non, il a vu que moi aussi, malgré ma dérive, je savais où je m'en allais. Je pense qu'il a respecté ça, puis il a vu les 10 titres de chaque côté, les 20 tunes, le concept, Love Shit 2, Blonde, j'avais le titre déjà, Blondie in the Backstabbers, puis ces deux disques-là, puis il a regardé, bon, c'est comme, that's what we gotta do, c'est ça qu'on, ouais.
C'est une très petite équipe, c'est Philippe, c'est Jolie, c'est toi,
miniature.
C'est toi qui joues presque tous les instruments.
Ouais, j'ai tout joué, Phil il a joué un peu... Mais même Phil, j'ai enlevé la basse. Puis laisse-moi jouer de la basse, c'est mon instrument préféré. Sam, il est venu 2 jours à la fin nous gâter avec ses rythmes, ses percussions, ses drums. Mais pour vrai, il n'y a personne sur ce disque-là. Même les backs vocales, en fait, je les ai toutes faites. Je voulais que ça soit le disque qui me ressemble le plus. Je pense que je me suis comme...
Est-ce que c'est le propos qui fait qu'on va être plus tout seul là-dedans?
C'est plein de choses, c'est le propos, c'est le budget, c'est le c'est plein d'affaires, mais en même temps, les deux derniers disques, je les ai faits avec beaucoup de gens, avec beaucoup de musiciens, puis la crème de la crème, je veux dire, de Olivier Langevin à François Lafontaine, à you name it, je veux dire, tout le monde, Pierre Arthur, tout le monde était sur le disque, mais j'ai réalisé que j'ai pas nécessairement eu plus de fun à faire les disques. J'ai eu des moments de plaisir, mais le dernier disque, j'étais tellement pas bien, j'étais tellement anxieux, j'étais couché par terre. Les musiciens ont comme pris un peu le dessus, ce qui a fait des très belles choses. J'aurais jamais pu enregistrer une chanson comme Pékin, les amitiés solo, ça aurait pas pu sortir aujourd'hui alors que je travaille seul avec Phil. Alors ça a fait comme un genre de des trains qui avançaient, puis des trucs complètement qui étaient hors de mon contrôle, puis de la musique sublime. Je suis devenu fan de la musique parce que je la jouais pas. Par contre, je pense que j'ai perdu un peu de confiance là-dedans alors que je jouais plus les guitares, je jouais plus parce que pourquoi je jouerais les guitares? J'ai Olivier Langevin, puis j'ai Joe Grass, puis j'ai... Par contre, il y avait ces guitaristes-là, comme Jocelyn Tellier, entre autres, qui me disaient, moi, j'aime comment tu joues de la guitare, tu sais. C'est toi qui as joué sur Love Shit 1, tu as joué sur Sound Your Life Makes, tous tes albums indépendants avant, tu as vraiment ta façon à toi de jouer de la guitare, puis en même temps, on tournait en trio à l'époque, puis je faisais toute la guitare. Fait qu'on, je sais pas, je voulais revenir à ça puis me surpasser. Enfin, ouais, on était capable. Puis il y a, de ces grands guitaristes-là qui admirent ton travail. Puis vas-y, tu sais, ça va être débile. Puis comme de fait, c'est dans mes, je sais pas, mes restrictions, mon talent limité, mais ça shine comme moi, je shine dans le bon comme le mauvais. Là, ça peut pas plus me ressembler. Puis je voulais que ça me ressemble no matter what, ce disque-là.
Et tu vas dans tous tes types de voix? Aussi.
Ouais, aussi. J'ai chanté beaucoup du cover quand j'étais jeune. Puis il y avait un réalisateur à l'époque qui m'avait dit, parce que quand je jouais du cover, je chantais plus du punk rock, puis des trucs crooner, puis je chantais du Iggy Pop, puis des Strokes, puis des. On dirait que j'avais un côté de moi qui. Il y a des gens qui me disaient comme, ben, quand tu chantes du cover, on dirait que tu t'éclates plus, tu sors plus de ton personnage, puis. Mais c'est le fun, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Fait qu'il y a il y a définitivement des influences très fortes de surtout sur Blondie, sur le disque Blondie, de crooning, si on veut. Chansons comme Blondie, justement, Believe in Cake, on dirait que je sors un peu de mon personnage qui était comme, tu sais, qui est plus pince sans rire, si on veut, ou un peu, je suis grand fan de chanteurs, auteurs, compositeurs comme Elliott Smith à l'époque, puis Evan Dando, des Lemonheads, puis c'est des gens qui chantent Bored, puis c'est comme leur Badly Drawn Boy aussi, qui est un de mes albums préférés des années 2000, qui chante très, très, très comme, moi, blasé. Et puis, je pense que j'avais un peu de ce blasé-là dans mon chant, mais j'ai tout un côté aussi qui est, je suis capable de sortir de cette bague-là, fait que je me suis comme, moi, je me suis éclaté un peu dans certaines tunes.
Il y a la chanson « What world do you savages live where you thought I'd be cool? »
Long titre.
Long titre qui a été écrit au plus bas. Est-ce que ça a été la plus dure à sortir,
en fait,
celle-là?
En fait, le propos, oui. Ouais. Le propos, c'est la chanson la plus... bon, sauf les veines, ça parle de mes temps de suicidal tendencies. Ouais. Mais je l'ai écrite à un moment où j'étais quand même sorti du trou. Je l'ai écrite, je m'en souviens, c'était le... après un party du Nouvel An le 31 décembre, en fait 2016, passé à 2017, l'album était. On allait le commencer, là, c'était dans 3 mois environ. Et puis, j'ai mon soundman et très bon ami Borza Gomeshi qui m'a prêté son studio. Il y a un super beau studio à Moronites qui appartenait à Pierre Marchand avant, ouais. Qui a fait des disques de Sarah McLachlan là-bas, puis Rufus Wainwright, puis. Lui était parti en vacances pendant 2 semaines parce que nous autres on quittait pour l'Italie après, fait qu'il voulait prendre une vacance avec sa copine, puis il m'a laissé ce studio-là magnifique à partir du 30 décembre jusqu'au, je veux dire, genre le 12 janvier pour 2 semaines. Puis après je suis allé dans un party de Nouvel An, puis je déteste les parties de Nouvel An, okay. Le genre de décompte, puis je deviens super anxieux, puis c'était pas exactement où je voulais être, je sais pas, il y avait des amis, mais je sais pas, les feux d'artifice sont partis, puis je pense 15 minutes plus tard, j'ai juste demandé à quelqu'un, tu peux-tu tasser ton char, moi je vais y aller, ça me tente d'être tout seul dans le bois, puis écrire de la musique, ou je sais pas, aller écouter de la musique, ou retourner chez Borza, qui est comme ce genre d'immense maison, un peu à tendance scandinave, et puis, fait que je suis arrivé, c'était comme à 15 minutes, puis je pense qu'il était minuit et demi, j'ai pris ma vieille Gibson, puis la façon que sa cuisine résonne, ça jouait tout seul. Puis j'ai été faire un peu un recap de mon année 2016. Fait que, le plus bas, je te dirais, c'était avril 2016, mais là, j'étais quand même plusieurs mois plus tard. Je me suis dit, je vais me servir de ce New Year.
Hurrah. Parce qu'il y a eu des bouts rough puis des bouts moins rough dans cette année-là.
Non, mais ça fait du bien des fois. C'est comme having a good cry. Là, quand tu pleures, il y a de quoi d'hyper libérateur là-dedans. Il y a quelque chose de. Là, je pleurais pas, mais c'était plus de sortir les mots. Vraiment sortir. Je trouvais que j'avais l'album, j'avais les tunes, mais il manquait cette tune-là que c'est dans mes cordes exactement comme mon range là, que j'aime chanter, capo 3, position de mi bémol. Puis c'est vraiment après toutes ces années, tous ces disques-là, je suis allé exactement dans ma zone de confort. Autant que j'ai sorti de ma zone de confort avec des trucs de crooning puis tout ça, je voulais faire une tune qui englobait tout ça, qui parlait pas juste de la rupture amoureuse, mais des trahisons, du backstabbing, qui allait chercher des références d'autres tunes, puis qui allait tout comme se rapiécer là-dessus. C'est un peu la chanson, comme le premier disque, il y a une chanson qui s'appelle Love Shit, qui a été écrite après l'album, puis c'est la dernière chanson qui englobe tout ça. Il y a les références à Los Angeles, les références à William, justement, références à tout ce col-là. C'est comme la tune qui englobe la thématique, en fait.
C'était comment l'expérience à Los Angeles? Parce que là, c'est écrire pour d'autres, dans des camps d'écriture. Donc, c'est sortir de son propre univers et écrire pour des gens qu'on connaît pas ou avec des gens qu'on connaît pas, parce qu'il y a eu plein de monde qui ont travaillé avec vous autres, j'imagine.
Oui, il y avait plein de monde de L.A. Puis,
c'était ça?
Ah, j'adore ça. J'adore vraiment ça. Puis ça, tu sais, je pense pas à faire ça pour moi, je pense... C'est pas pour mon disque puis mes affaires. Puis tu peux sortir aussi. C'est souvent dans des contextes où tu écris des tunes plus pop aussi, des tunes pop pour d'autres. On avait même une commande le premier jour. J'ai écrit avec des réalisateurs italiens pour Nick Jonas. T'sais, c'est tellement pas. Je connais pas Nick Jonas. J'ai jamais entendu une de ses tunes. Je sais c'est qui. On a écouté sur YouTube un peu des références. Donc j'ai fait comme oh boy, OK. Fait qu'on part ça avec des beats, des synthés. J'ai amené ma touche mélodique. En fait, une bonne tune, puis après ça, tu la réalises comme tu veux. Je pense que j'ai une certaine facilité de trouver des hooks, des mélodies, des textes. On avait comme un peu chacun notre rôle. Les équipes se font à tous les jours, là. C'est des équipes différentes. Fait que tu travailles avec un kid de 18 ans, avec Alyosha, j'ai jamais travaillé avec. Lui, il a sa façon, il a ses mélodies, ses plis à lui que moi, j'y repique. Puis pourtant, c'est les mêmes chords que je fais toute ma vie, mais... Je suis comme, ah, c'est le même, toi, tu chanterais ça. OK, ouais. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui prend le relais, en fait, avec sa courbature, moi, je chanterais le refrain différemment, mais après ça, quand j'ai plus de gaz, ben, c'est Matt prend le relais. Ou sinon, j'ai un gars, Duddy Brown, avec qui j'ai travaillé. On a fait un truc super électro-mélancolique, un peu Gorillaz. Ça fait des belles banques de chansons. Puis j'ai eu l'occasion de le faire aussi en français avec la Socan l'année passée. Il y a Guillaume Moffett, qui est un bon ami à moi, qui travaillait pour la Socan à l'époque. Là, il rentre chez Spotify, mais il organisait un camp d'écriture. Il a invité plein de monde, comme Laurence Nerbonne était là, Gaël, des réalisateurs, Rough Sound, June, des beatmakers. Il y avait toutes sortes de monde. Puis le matin, on déjeunait, c'était dans Arthabaska Lodge, je pense, dans le coin de Mont-Laurier. T'as une semaine, pas d'Internet, puis c'est comme écrivez des tunes. Fait que le matin, tu te lèves, tu déjeunes, t'apprends c'est avec qui tu travailles. On est une vingtaine de personnes.
C'est jamais les mêmes, donc à chaque jour, ça change.
Ça change à tous les jours, t'as aucune idée. Tu t'en vas comme te brosser les dents, prendre ta douche, puis tu commences à 9-10 heures le matin. Faut que t'écrives une tune à la gang. Faut que tu l'enregistres, mixé. Puis à la fin de la soirée, vers 10-11 heures, tout le monde se ramasse au lodge, puis on les écoute. C'est tout enregistré. Là. Fait que à la fin de la journée, il y a cinq équipes. Fait qu'il y avait cinq nouvelles tunes. Il y avait quatre équipes. Il y avait quatre nouvelles tunes, hyper pop. C'était vraiment une commande pour écrire pour les autres, de la grosse, grosse pop radio. Puis il y a du monde qui ont participé, c'est quand même intéressant. T'sais, comme Philémon, c'est pas quelqu'un qui fait ça, mais lui a fait la deuxième saison de ça. En fait, tu sors un peu le cheese qui te reste là, d'un trip que t'oserais pas sortir pour ton projet. Fait que ça fait des gros hooks, ça fait des grosses tunes. Puis la deuxième journée, t'en as quatre nouvelles. La troisième journée, t'en as quatre nouvelles. Fait qu'à la fin de la semaine, il y a 20 tunes. C'est des gros tubes, là, des gros refrains powerful. Puis tout le monde est... il y a du vin à volonté, puis on est là, puis on chante toutes nos tunes. Nous autres, on les connaît, on est les seuls au monde qui les connaît. Ouais, ouais. Mais il y a vraiment un triple fun à écouter, puis on s'est gâté, on a mis comme 4 layers de fromage, puis c'est du gros sirop d'érable par-dessus, ouais, c'est ouais. délicieux, c'est vraiment le fun. Puis tu vois, il y a des tunes qui sont sorties de ça, justement.
Est-ce que j'allais dire, ouais, est-ce qu'il y en a qui se ramassent?
Ouais, ben, en fait, c'est il y a comme... Tu vois, Ellie Rose, oui. Je sais pas, tu vois c'est qui, ouais, avec Ellie
Papier. Qui est pas dans ton clip, d'ailleurs?
Ouais, je suis dans mon clip de Painkiller, justement. Elle a son projet pop maintenant, puis tu vois, depuis le moment où elle a travaillé avec ce camp d'écriture-là, à ce camp d'écriture-là, elle travaille avec des beatmakers comme Rough Sound, justement, qui travaille avec Corias, puis tout ça, puis elle fait une pop complètement, tu sais, actuelle, un peu à la Mo, Bieber, tous ces trucs-là. Elle a comme trouvé un peu sa voix de vouloir faire de la musique pop radio ensoleillée comme ça, beaucoup encore plus qu'avant. Tu vois, moi, Laurence Nerbonne, c'est la première fois que je travaille avec, puis on a une toune qui est sortie de ça. C'est retrouvé sur son album Deluxe, comme les autres, qui a roulé beaucoup, beaucoup à Radio-Canada, justement. Puis je pense, là, elle est à veille de commencer avec les radios commerciales. Fait que non, il y a eu des beaux trucs inattendus qui sont sortis de ça.
Si on veut te voir en show, on a les dates sur ton site.
Oui, absolument. Jason,
merci d'avoir été là aujourd'hui.
Ben, merci toujours à vous.
Un plaisir.
Infiniment.
J'invite les gens à se procurer Love Shit 2.
Yes.
Ton plus récent album. Merci beaucoup.